Avant que ça rouille.
Marceau, le right.
Bon lundi.
Boulevard
102.1. 17 degrés sur Québec, c'est encore très nuageux et pluvieux. On nous mentionne du côté d'Environnement Canada ainsi que Météo Média que cet après-midi, ben, ça devrait être un peu plus ensoleillé avec quelques passages nuageux. Maximum de 25, humidex de 33, c'est ce qu'on nous mentionne. Pour ce soir, partiellement nuageux avec un minimum de 15. Demain mardi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 25. Et mercredi, ce sera de la pluie avec un maximum de 24 degrés. Dans la prochaine demi-heure, Denis Gravel va être là vers 7h55 comme à son habitude du lundi au vendredi pour le Pit Stop. Mais dans les prochaines secondes, on va avoir la chance de jaser avec Roger Ferland, qui est ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec sur l'accident qui s'est passé sur le pont Pierre-Laporte vendredi soir. On parle d'une tragédie juste avant la circule.
Oui, juste vous mentionner, ralentissement pour accéder aux deux ponts, autant pont de Québec que pont Pierre-Laporte, surtout sur la 73 pour ce qui est du pont Pierre-Laporte en direction nord, mais sinon ça circule bien.
Mathias, rappelle-moi les événements qui se sont passés vendredi soir.
C'est vers 23h20 vendredi soir qu'un homme circulait à contresens sur l'autoroute 20 en direction des ponts. S'ensuit une violente collision frontale avec un autre véhicule. Des personnes qui se sont arrêtées pour aider les deux personnes qui se sont rentrées l'un dans l'autre. L'un des témoins qui a été atteint par balle par justement le fugitif en question, lui qui circulait à contresens.
Des gens qui ont tenté de lui prêter main forte, de l'aider alors qu'il ne s'attendait pas à recevoir des coups, des balles en fait. Là. C'est une tragédie. Est-ce qu'on a plus de détails sur l'individu qui a été blessé?
Pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Ce qu'on sait, c'est que l'individu qui a été blessé, aucun détail. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'individu qui a tiré les balles s'est emparé d'un nouveau véhicule, a fui et la poursuite policière qui a pris fin alors que les policiers ont retrouvé le cadavre de l'homme en question au sein du véhicule volé.
On en parle avec Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Salut Roger!
Salut messieurs, bonjour!
C'est toujours un plaisir de te jaser. Quelle tragédie qui s'est passée sur le pont Pierre-Laporte direction sud. Un individu qui, visiblement, puis là, les hypothèses, les miennes, c'est qu'il voulait mettre fin à ses jours. Quand on roule sens contraire sur l'autoroute, qu'on a une arme à la main et qu'on a un impact à 100 km/h avec un autre véhicule, ben, d'après moi, la personne voulait mourir. D'après moi, son arme n'était pas cachée dans son coffre à gants ou sur la banquette arrière. Il devait l'avoir directement des mains. Et quand les héros ont tenté de l'aider, malheureusement, se sont fait tirer dessus. Les policiers sont intervenus quand même assez rapidement. Ce qu'on sait entre-temps, comme Mathias l'a bel et bien mentionné, c'est que l'homme serait parti à courir vers la rive sud, aurait volé un Honda Civic gris. Les policiers ont tenté de l'intercepter avec un tapis clouté. Malheureusement, ça ne semble pas avoir fonctionné pour des raisons que j'ignore encore. Et on aurait retrouvé le véhicule abandonné avec l'individu qui était en fin de vie, qui était mort en fait dans son véhicule. Donc, il aurait mis fin à sa vie. Assez traumatisant pour les policiers qui arrivent sur place, mais assez traumatisant aussi pour les automobilistes qui ont vu ça vendredi soir. C'est une tragédie.
Ah, c'est une tragédie terrible que tu décris là, Yannick. Puis, tu émettais une hypothèse. Je vais t'en ajouter un autre aussi. Moi, je pense vraiment que ce gars-là, il se sauvait, mais il se sauvait de quoi? Est-ce qu'il y a des extraterrestres qui courent après? Est-ce qu'il y a une bulle dans sa tête qu'il a consommée? Je ne sais pas parce que toutes ses actions après ont fait en sorte qu'il cherchait à fuir. Il a agressé des gens, il a posé des gestes qui étaient complètement irrationnels, mais on n'est pas capable de comprendre. Mais je reviens sur un point. Les citoyens ont eu de la misère à comprendre, mais d'après moi, les policiers au début ont eu bien de la misère à comprendre l'histoire aussi. Parce que, essaye d'imaginer l'amorce de cet appel-là, là, de ce call-là. Il y a dû avoir des appels au 911 qui ont rentré à la Sûreté du Québec pour dire qu'il y avait un véhicule en sens inverse. Ils ont dû avoir des appels 911 qui ont appelé à Lévis au départ pour dire un véhicule vient de s'engager sur l'autoroute à sens inverse puis il roule à telle place parce que les gens pensent qu'on est à Lévis, mais c'est la Sûreté qui va couvrir. Puis finalement, quand ça a frappé, ben comme c'était en direction, le bouchon s'est installé. Québec a sûrement eu des appels aussi également. Je peux te dire que les premières minutes ont dû être cacophoniques sur les ondes de la police. Mais après ça, tu t'en vas sur un accident blessé. Tu t'en vas pas sur un tireur actif. D'autres appels ont dû rentrer après ça en disant qu'il y a un tireur actif sur le pont. Il a fait feu sur du monde. Puis là, la panique générale a dû s'emparer. D'après moi, c'est le genre de scénario que on planifie des fois à l'école nationale des scénarios rocambolesque pour faire pratiquer un sergent dans des nouveaux exercices pour le mettre dans le trouble. Là, on a mis tout le monde dans le trouble dès les premières minutes. Ça devait être terrible.
Roger Ferland, de quelle façon l'information est transmise aux flics dans leur véhicule? Est-ce que c'est par écrit ou par radio? Puis qui est responsable de transmettre l'information la plus précise possible aux policiers qui se dirigent vers l'événement?
De façon à rendre ça le plus simple et calme pour tous, c'est toujours transmis maintenant de façon, tu reçois une petite cloche dans l'auto, tu vas lire ton ordinateur et tu regardes sur ton écran l'information qui te rentre. Dans un cas comme on parle là, automatiquement, l'autre méthode rentre en ligne de compte, c'est trop urgent, trop important. Alors là, on ne marche pas par l'écran cathodique de l'ordinateur, mais on va parler sur les ondes radio. Et des fois même, on va te mettre live à te permettre de faire entendre l'appelant ou l'autre communication, peut-être qu'on peut faire entendre directement l'opérateur d'un autre service de police, directement ses ondes. Et là, ça veut dire, taisez-vous dans vos autos, écoutez les consignes, vous êtes en train d'entendre live tout ce qui se déroule. Alors, on essaie à ce moment-là d'amener la meilleure information la plus rapidement possible. Alors, c'est sûr que... Ils ont dû utiliser les ondes radio. Je n'ai pas vérifié avec eux, là, mais je suis convaincu que c'est ce qu'ils ont dû prendre comme méthode. Par contre, après ça, par la suite, là, qui va parler, qui va répondre, qui va dire, on demande beaucoup plus d'être à l'attention sur ce qui se déroule plutôt que d'avoir envie de donner ton information. Mais tu as besoin, celui ou celle qui a de l'information neuve, nouvelle, à jour, de le dire. Alors, ça demande beaucoup de discipline. Ça a dû être cacophonique, sincèrement.
Et quand ça touche trois corps de police, dans ce cas-ci, c'était les policiers de la ville de Québec, c'était les policiers de la ville de Lévis, c'était les policiers de la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il y a un modus operandi quand il arrive ce genre de truc-là où c'est une seule personne pour les trois corps de police qui tente de diriger l'opération qui est en cours présentement?
Tout à fait. Là, il faut qu'ils s'entendent. Les trois centrales 911, parce que là, tu parles de trois centrales différentes, ont dû s'entendre à savoir qui prend les ondes et qui va parler à qui. Mais très vite, ils ont dû après ça ramener ça en vase clos, à savoir, c'est pour ça que Québec a mis en place le CVSO, là, le centre de vigie opérationnelle. Dans ces moments-là, c'est le poste, puis ils sont juste à proximité des gens qui sont aux appels 911. Alors, ils sont capables de venir en support rapidement pour tout de suite venir dire, OK, on prend telle action, on prend telle décision. Par exemple, la Sûreté du Québec, les appels 911 se prennent du côté de Pierre Bertrand, mais le CVCO, qui a un autre nom pour eux, est appartenait à Montréal pour toute la province de Québec. Alors là, c'est là qu'il y a dû avoir des ententes décisionnelles de dire qui prend... Mais avant que ça se fasse, là, Yannick, là, il y a souvent des fois, je sais pas comment ça s'est passé, mais des fois, il y a des petits égos, là. Qui parle? Ouais. C'est sur mon territoire, c'est ci, c'est ça. J'ai envie de te dire rapidement, à cause de toute la logique du territoire, ça a dû être transféré assez vite à la Sûreté du Québec. Pourquoi? Parce que les autoroutes au Québec et à Québec, c'est à eux. Les autoroutes, toutes les routes numérotées, c'est à eux, là, qu'on les laisse.
Parfait.
Alors, comme ça se déroulait sur le pont, ouais. L'autoroute 20, Henri IV, donne-moi ça, là, ces routes-là. On a dû leur laisser à eux les commandes et on était en support à eux. J'ai vraiment l'impression que ça a dû être comme ça.
Moi, j'ai des hypothèses. Tu as des hypothèses, mais tu peux me donner aussi du factuel. Donc, pourquoi cet événement-là est arrivé vendredi, puis là, ben, samedi a passé, dimanche a passé, puis on n'a toujours pas l'identité du tireur?
Ça, c'est la partie... c'est pas une hypothèse, c'est à cause de l'enquête du BEI. Puis en ce moment, ben, ils ont à valider beaucoup de choses parce que le BEI ne donne plus aucune information à ce moment-là. Il donne que ce qui est strict minimum. Ce que je peux te dire, off record, c'est que ce gars-là, parce que oui, on en apprend toujours entre les branches un petit peu, n'était pas connu des milieux policiers, n'avait aucun antécédent judiciaire et n'était pas connu aussi pour des problèmes quelconques de santé précis. En termes de santé mentale. Par contre, c'est clair que ce gars-là s'est solidement désorganisé dans les circonstances parce que il a refusé l'aide des citoyens, il a pris des décisions qui étaient complètement à contresens d'une logique. On pouvait penser qu'il voulait se suicider par son auto, mais finalement, il s'est sauvé après, il a même fait feu sur le monde, il a refusé d'obtempérer aux policiers de la Sûreté du Québec une première fois quand il s'est fait retracer dans le coin passé, Montmagny, dans ce coin-là, là, parce que ça s'est dit aussi à un moment donné. Il a passé sur des tapis à clous, pas de collaboration, puis à la fin, les policiers prennent reddition sur lui, et là, il s'enlève la vie. C'est ce qu'on comprend. Mais rien de tout ça n'est confirmé de façon officielle, même encore là, moi, je te laisse en hypothèse, parce que c'est le BEI maintenant qui orchestre tout ça. C'est pour ça que l'on sait à peu près plus rien. La grande difficulté, Yannick, c'est de retracer le profil de ce gars-là maintenant. Puis tu l'as dit tantôt, un peu plus tôt dans l'ouverture d'émission, c'est triste là, parce que la police, il faut qu'elle enquête.
Ouais.
Il y a un avis de décès à faire, possiblement. Il y a une famille à côté de tout ça. Il y a des gens qui savent, qui ne savent peut-être pas ce qui s'est passé. C'est triste en ce moment-là. Mais il y a une enquête à faire parce que la population aussi, c'est triste, puis on travaille pour eux autres.
Là. OK, là, j'ai de l'information policière qui rentre. Il va falloir que tu me traduises, Roger Ferland, parce que pendant toutes tes années, tu étais policier, enquêteur au SPVQ, fait que j'imagine que tu connais les codes. On me dit que le CVCO n'a pas pris les ondes pour prendre en charge la poursuite.
OK, bon, ça veut dire que moi, je te disais que possiblement que le centre de commandement de vigie que la police a, ils sont pas intervenus. Ils ont resté en support, ils n'ont pas intervenu. C'est le 911 qui a gardé les ondes radio et c'est les policiers qui étaient en poursuite immédiate qui l'ont fait. Fait que c'est, vois-tu, je laisse entendre que je pensais que le centre de vigie, c'est lui qui parle, il ne parle pas du tout à ce moment-là. Il laisse les commandes aux gens du 911. Puis le 911, lui, quand il y a une poursuite, s'il y a eu poursuite ou traque de ce gars-là pendant un certain temps, ben on laisse toujours la parole à celui qui voit la situation. Les autres doivent se taire.
Parfait.
Il prend une position tout autour, mais tout le monde se tait à ce moment-là.
Et je te confirme qu'il y a des policiers qui nous écoutent, là, ça commence à rentrer. L'information que je peux te dire, dont je suis le plus confiant, là, on dit qu'il restait un pneu au véhicule qui était encore gonflé et il y aurait eu, ce soir-là, 3 tapis à clous de tenter.
Imagine, OK? 3 tapis à clous. Tu vois, vois-tu, on voit la photo, là, on voit que les pneus sont crevés. Ça veut dire que ce gars-là, il résistait totalement à son interception. Il était en fuite dans un état de désorganisation possible. T'sais, puis vois-tu, c'est pour ça que des fois on dit aux gens, ah, les gens devraient tirer dans une jambe, devraient faire ci, devraient faire ça. Hey, des tapis à clous, là, ça fait un job. Il n'a pas passé sur 1 sur 2, on est rendu sur 3. Fait que, vois-tu, c'est pour ça qu'à la gang, on sait tout, là. Merci aux collaborateurs qui prennent le temps de t'informer. Mais tu vois, il y a des moments où ce que on donne des outils, mais après, tu fais quoi comme action pour le neutraliser? Tu sais, tu étais totalement justifié, à la limite, Yannick, de tirer avec ton arme à feu dans ce véhicule-là. Là. C'est pour ça, parce que ce gars-là, il a une arme dans les mains. Là. Le véhicule est en... Il continue. Les tapis à clous, là, je te réponds, là, à ma connaissance, Lévis puis Québec, on n'en a pas. C'est utilisé uniquement en milieu plus ruraux, parce que en milieu urbain, faut que tu le mettes, faut que tu l'enlèves. Fait qu'il y a trop de véhicules qui passent. Ce n'est pas un outil de travail que la police de Québec a. Je sais pas, je sais même pas si Lévis en a en ce moment, là, tu sais. Mais c'est la Sûreté qui a ça. Ça veut dire que c'est, s'il y a 3 tapis à clous, c'est la Sûreté du Québec à divers endroits qui ont mis des tapis à clous. Fait qu'il y a eu beaucoup de démarches pour neutraliser ce véhicule-là, là. Beaucoup de démarches.
Roger, quand on arrive sur des lieux comme vendredi, puis là, il y a des gens qui sont en fuite parce qu'ils ont entendu des coups de feu, se cachent sous le pont. Comment les policiers interagissent avec tout ce brouhaha-là?
Ben à partir du moment, on va y aller par étapes, là, ramène-moi ça assez basique. Là. Les policiers sont en sécurité pour intervenir. Là, ils ont pensé à la sécurité des citoyens. Là, après ça, il faut qu'ils rétablissent le matériel ou la façon de faire. Dès qu'ils se sont rendus compte que la scène sur le pont de Québec, le pont de la Porte, c'est-à-dire, était sécuritaire, là, ils ont dû penser, il faut qu'on travaille sur aussi une équipe à rétablir la circulation. Alors là, ils ont dû bloquer des périmètres du côté de Québec, du côté de Lévis, pour faciliter le travail sur la scène. Mais là, ils ont dû commencer à penser de détourner le trafic. Mais détourner le trafic, quand tu n'as pas de gens à bord des véhicules, il faut que tu débarques en toi aussi comme patrouilleur, à pied, aller voir les citoyens, leur dire « bonjour monsieur, bonjour madame ». Vous pouvez sortir du bois, vous sortir du fossé, revenir à votre véhicule, la scène est sécurisée, on va vous faire partir en sens inverse. Tu vois-tu tout le temps que ça demande à chacune des places? Il y a dû avoir des appels comme ça de fait. Ils ont sûrement dû réfléchir au début, est-ce que ça prend les chiens, ça prend les drones, ça prend quoi? Ça, ils ont dû penser à plein d'outils de travail. Mais très vite, tu dis un peu, là, va falloir qu'on aille reparler à tout ce beau monde-là, un par un, quasiment, puis aller sécuriser la population. Parce que tout le monde s'est dit d'un à l'autre dans les véhicules, On a compris, là, il y a des témoins oculaires de la scène qui ont dit, ben là, on s'est fait dire qu'il y a un tireur actif, sauvez-vous, sauvez-vous. Ça devait être une scène de film apocalyptique, effectivement, mm-hmm. on se pousse sur le pont puis on se sauve comme dans Independence Day, là, tu sais, je pense ouais. à des films comme ça qu'on
non,
a
non,
vu.
C'était assez particulier. Roger Ferland, merci.
Hey, bonne journée à vous, gang.
Au revoir, bye-bye.
Salut.
L'excellent Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Le podcast sera disponible dans les prochaines minutes sur le site de blvd.fm. Même une entrevue que samedi matin, Audrey Pinchot fait du Ce jour sur 7, tout le monde sait ça. Samedi matin, était sur le Gun et il y a un de nos collaborateurs, c'est Éric Sauvé, qui était présent sur le pont Pierre-Laporte à ce moment-là. Puis lui, il raconte toute l'histoire et comment ça s'est passé, comment lui l'a vécu avec toute sa famille. Mais grosso modo, ce que j'ai retenu, là, c'est quand il te dit « je suis dans mon véhicule », le véhicule s'arrête rapidement parce que tous les autres véhicules s'arrêtent rapidement devant lui. Et là, tout d'un coup, il y a une marée humaine qui part à courir vers son véhicule puis qui tape sur son véhicule en disant « fusillade, sauve-toi, sors de là ». Donc, lui et toute sa famille, ainsi que ses gars qui étaient derrière, se sont réfugiés. Si je ne me trompe pas, c'est en dessous du pont La Porte.
Oui, exactement.
De ce que je comprends.
Hey, tu dois faire un saut. Hein? Tu es dans ta voiture, une marée humaine qui arrive et qui te crie « fusillade », là. Ça doit être un événement marquant dans ta
Effectivement.
Vie.
Effectivement. Il est 7h52, je dois faire une pause très rapide puisque Denis Gravel est là pour le Pit Stop tout de suite après la pause. On fera un bulletin aussi de ce qui se passe dans la circulation.
Pour nous informer de ce qui se